des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Alors Vincent, bon, bilan au Québec qui est bon un peu semblable à celui d'hier, mais qui est surtout tourné vers une région où ça va plus mal. En fait, le calcul que tu faisais tantôt, c'est que c'est probablement le pire bilan pour une journée, pour une région depuis le début de la pandémie.
Là. Ouais, j'ai l'impression, j'ai pas vérifié, là, mais Mario, je pense que c'est, on a même pas besoin de faire le calcul. Là. Ça va de soi que le Saguenay, Lac-Saint-Jean, aujourd'hui avec 241 cas. On a vu à Montréal là, le nombre de cas qu'on a atteint.
Parce que Montréal, à mon avis, le sommet qu'on a eu, c'est 300 cas.
Ben,
mais c'est beaucoup moins, beaucoup moins 300 quelques à Montréal que 240 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là.
C'est pour ça que je pense au prorata, c'est vraiment du jamais vu ce qui se passe au Saguenay. Ça va inquiéter assurément le gouvernement qui tentait de demander vraiment aux gens d'être le plus prudent
mais
possible.
Mais ça confirme, comme on était à un ou deux lits de transférer des patients. Imagine 241 aujourd'hui, ce que ça annonce. Puis là,
dans 10 jours,
même deux hospitalisations. Des fois, ça prend 2-3 semaines. Mais ça annonce pas des bonnes nouvelles pour les hospitalisations à venir. Ça veut dire qu'à mon avis, tu vas avoir des corridors de transfert de patients du Saguenay-Lac-Saint-Jean vers au moins la région de Québec, sinon vers 2-3 autres régions pour prendre les surplus de cas.
C'est pour ça qu'il faudra que ça aille mieux dans d'autres régions. Capitale-Nationale, aujourd'hui, 121 cas quand même. On avait connu des journées plus basses là, récemment. Ici, 87. Sinon, pour ce qui est de Laval, 90, Lanaudière, 118, Montérégie, 141. Alors, c'est le portrait qu'on a à peu près aujourd'hui. Un mot, Mario, parce que vous parliez de M. Giuliani. Là.
Ouais.
Je viens juste de voir un tweet passer il y a quelques secondes. Parce que, bon, on sait, l'avocat de M. Trump a fait un point de presse complètement déjanté là, dans les dernières minutes. Et Chris Krebs, qui est lui qui vient d'être congédié par Donald Trump, là, qui était directeur de l'Agence de cybersécurité et des infrastructures.
C'est lui qui était en charge de la sécurité de l'élection. Là.
Oui, et lui s'est fait congédier tout simplement parce qu'il a dit non, il n'y a pas de fraude dans l'élection.
Il a dit plus que ça, il a dit que ses premiers rapports préliminaires de tous ces... Parce que lui, c'est l'Homeland Security, là, de tous ses experts sur le terrain, c'est que c'était l'élection la plus sécuritaire, qui s'était le mieux déroulée de l'histoire.
Ben c'est ça, il s'est fait congédier pour ça. Ben, je veux te dire, il vient d'envoyer un message Twitter quelques minutes à peine disant cette conférence de presse, en parlant de la conférence de presse de Rudy Giuliani, cette conférence de presse est le 1h45 minutes de télévision la plus dangereuse de l'histoire américaine est possiblement la plus folle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous êtes chanceux.
Bon.
Alors, on peut dire que c'est assez clair. Effectivement, on voyait M. Giuliani, qui d'ailleurs, on dit, à 20 000 $ par jour, c'est son salaire, peut-être se payer autre chose qu'une teinture de pharmacie. Là. Parce que, je veux dire, c'est rendu un vaudeville, là, les sorties de M. Giuliani, qui a sorti toutes sortes d'affaires aujourd'hui, a accusé le Venezuela, George Soros, a dit entre autres aussi que Paris aussi...
Mais là, il frôle les théories du complot farfelues qui circulent sur le web. Là.
Ouais, il y a même un pied et demi dedans, là,
ouais.
Absolument. Parce que, enfin, ce qu'on comprend, Mario, c'est qu'il n'y a absolument pas l'objectif de gagner quoi que ce soit là-dedans, parce qu'il n'y a rien, là, c'est des coquilles vides. L'objectif, c'est de miner la confiance de la population, et ça fonctionne. Là, on voit de plus en plus d'Américains qui croient que Joe Biden a volé l'élection. C'est ça qu'on tente de faire, parce que devant les tribunaux, il faut présenter des preuves, et il n'y en a pas, là, d'aucune
façon. Mais c'est parce que ça... C'est comme, comment je te dirais ça, c'est comme, mettons, t'essaies de convaincre quelqu'un qui est convaincu que la Terre est plate, là.
Oui.
Tu vas dire n'importe quoi, tu comprends, ils sont allés en bateau en allant au bout de la Terre, finalement, ils ont fait le tour, puis ils vont encore dire que, ouais, mais c'est parce qu'ils se sont trompés de chemin. Donc,
effectivement.
Tu gagnes jamais la discussion, là, tu vas jamais faire ta preuve, même si t'envoies les photos d'un astronaute, peu importe la preuve.
Ben, et si toi, tu dis à quelqu'un qui croit que la Terre est plate, hey, j'ai entendu dire qu'il y a un gars qui a tenté d'y aller, puis là, il y a des bateaux qui sont arrivés, qui l'ont arrêté, puis là, lui, après ça, il va répéter ça, là. Comprends? T'as pas besoin d'avoir de faits réels. C'est un peu ce que fait Rudy.
Mais là,
Giuliani.
C'est exactement ça, là. C'est que, mais même le président Trump, il demandait un recomptage en Géorgie. L'État de la Géorgie, qui est républicain, accorde un recomptage en disant, on va les compter, les bulletins, on va les compter à main. On va leur faire au complet, on va faire la job.
Un par un
à main. Mais le lendemain de ça, là, Trump s'est bien rendu compte qu'il allait avoir l'air fou, qu'est-ce que tu veux, il arrivait avec un résultat, peut-être quelques votes de différents, mais je veux dire, globalement, le même résultat, le même gagnant, la même affaire. Là, il s'est mis à appeler ça un fake recount. Parce que là, supposément qu'il manquait d'observateurs pour le recount. Ben, je veux dire, il manquait pas de... C'est des républicains qui l'administrent. Il y avait des observateurs des deux partis, comme il y a toujours des observateurs des deux partis.
C'est pour ça que l'objectif, c'est de miner la crédibilité de l'élection. Et ça, par contre, ça fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne. Tu as 29 défaites sur 30 et la seule victoire étant vraiment mineure. Là. 29 défaites en ligne devant les tribunaux pour l'équipe de Rudy Giuliani. Alors, l'objectif, c'est de brasser de la merde.
C'est fascinant. C'est comment... Bon, c'était 8 personnes, on dirait. Hein. C'est 8 perdus. Là, mais des millions de personnes, mettons, qui ne croient pas à la pandémie malgré 250 millions de morts, mais croit à la fraude.
250 000 morts.
250 000 oui. morts, pardon. Mais croit à la fraude malgré le fait que partout, les démonstrations sont faites, des officiers d'élection, puis j'insiste, dont plusieurs républicains, là, c'est pas tous des démocrates, plusieurs républicains leur disent non, le vote il a bien été, c'est bien déroulé, ils ont tout perdu devant les tribunaux, devant des juges, probablement que les juges sont moitié-moitié démocrates et républicains.
Il y a même des juges républicains qui disent non.
Les juges sont pris devant les faits.
Oui, oui. Mais il n'y a plus besoin. Une partie de la population, les faits n'importent plus. Là.
Mais c'est ça.
On va prendre tout ce qui va dans le sens de sa pensée. D'ailleurs, M. Giuliani a dit, si on exclut là, dans certains comtés, si on exclut les comtés démocrates, Trump gagne. Si on exclut tous ces comtés-là bleus.
Mais ça, c'est vrai, par exemple?
Ça, c'est vrai.
C'est sûr que ça allait.
Parce qu'évidemment, ces comtés bleus...
Ça enlève les votes démocrates.
Il gagne. Il dit facilement, même, M. Trump. Alors, c'est un peu décourageant, quand même, ce qui se passe là-bas.
Eh bien, mais on va se parler de... nouvelle de dernière heure. Là, on vient de me... mais toi aussi, tu l'as.
Oui.
Parce que c'est la controverse de la députée Emmanuela Labropoulos. On savait qu'en fin d'après-midi, elle devait se présenter au comité sur les langues officielles.
Et il y avait beaucoup de pression pour que Emmanuela Labropoulos quitte son poste en raison de ses propos sur la langue française. Et c'est notre collègue Raymond Filion là, qui dit que la députée annonce qu'elle compte démissionner de ce comité des langues officielles.
Donc, elle ne s'y présentera pas aujourd'hui.
Ce qui était demandé par l'opposition.
C'était quand même... J'ai bien du respect là, pour Mélanie Joly, tous les députés qui ont pris le bâton du pèlerin pour dire, nous, le Parti libéral, on veut le rendre respectueux de la langue française. Mais il reste qu'après les élections, quand tu formes les comités, il y a quand même quelqu'un qui en a un libéral, approuvé par Justin Trudeau, qui a nommé un comité sur les langues officielles du Canada. Là, je sais pas combien ils sont dessus. D'habitude, les comités sont 9 ou 11, ou peu importe. Là, puis il y a une coupe par parti. Puis le Parti libéral, nous, faut qu'on nomme quelqu'un. Ils ont des députés, le Parti libéral, non à grandeur du Québec. Mais celle qui nomme sur le comité sur les langues officielles pour les représenter du Québec, c'est une Québécoise qui dit de pas aimer le français, là, qui a mieux parlé en anglais, qui a parlé juste en anglais son investiture au point que ça a fait des articles dans les journaux. C'est quelque chose, là.
Effectivement.
Que tu dis, OK, dans la particularité québécoise, t'as une de tes provinces où la langue, c'est sensible, il y a la loi 101, il y a un débat. Puis celle que tu nommes pour représenter, une de celles que tu nommes pour représenter cette province-là, elle le parle, le français, mais elle aime mieux parler anglais, a-t-elle dit. Gilbert Rozon, de retour en cours aujourd'hui.
Oui, et d'ailleurs, on apprenait que ça vient de se terminer, la couronne qui a terminé sa plaidoirie en demandant la condamnation de Gilbert Rozon pour viol et attentat à la pudeur. La juge qui prend une pause, donc le temps que la défense décide si elle demande une réplique. Alors Rozon, qui à 66 ans était de retour aujourd'hui pour les plaidoiries, et on sait que son avocat l'avait fait, et là c'est au tour de la couronne qui veut, défendre la crédibilité de la plaignante, parce que lors des plaidoiries, la défense, au début du mois, avait tenté de démonter la crédibilité de cette femme, disant que les événements avaient été marqués du sceau et du respect de la courtoisie. C'est ce qu'on avait raconté dans son propre témoignage, Gilbert Rozon, qui avait assuré avoir respecté le consentement. Alors évidemment, on a deux versions bien différentes dans ce dossier-là, les plaidoiries qui ont duré toute l'après-midi. La juge Mélanie Hébert, donc, qui prend cette affaire en délibéré. On va attendre de voir s'il y a une réplique d'ailleurs dans ce dossier.
Merci.